Je suis en compagnie de Laurent Hérault Chaume. Il nous revient, je dis il nous revient parce qu'il va vous expliquer justement ce cheminement qu'il a mené jusqu'au Liban. Bonjour Laurent.
Bonjour.
Alors, on va parler de cette aventure à la fois culturelle et humaine. Quel a été le déclic ?
C'est une histoire de hasard, hein, comme souvent dans la vie. On a beau essayer de choisir, finalement, on est souvent choisi. Un jour, une personne qui travaille avec moi, Alice, me transmet un message sur une candidature, sur une résidence collective au Liban, qui a un projet euro-méditerranéen qui s'appelle Voyage du Geste, qui est porté par des compagnies un peu partout en Europe, en Italie, au Portugal, au Liban, en Palestine. Et ce qui l'avait fait rire sur cette candidature, comme quoi les choses se jouent à pas grand-chose, c'est que ça s'arrêtait à 35 ans.
Pile poil dans le timing.
Voilà, c'est ça. J'ai 35 ans et donc elle se moquait un peu de moi en disant « Tu vois, tu es encore jeune. » Et l'autre chose qui l'avait fait réagir, c'est que le thème, c'était « Looking for a spring », c'est-à-dire à la recherche d'un printemps. Parce que donc la résidence avait lieu au Liban et évidemment tout le monde arabe depuis 2 ou 3 ans est accaparé par cette question-là du printemps arabe qui pour certains n'est pas vraiment un printemps et en tout cas pour le Liban c'est un sujet très particulier et moi je suis passionné par ces questions-là, c'est-à-dire les questions de comment on prend en vie notre main, comment on se laisse pas faire face aux injustices, etc. Et le printemps arabe m'avait vraiment passionné. Donc voilà, j'ai porté ma candidature pour ce projet-là, Voyage du Geste, et voilà, j'ai été retenu pour représenter la France avec 3 autres jeunes, et donc voilà, me voilà parti pour le Liban en août de cette année.
Très bien, en août, alors arrivé là-bas, comment t'es-tu immergé dans la population, dans le quotidien, va-t-on dire ?
Ce qui est assez particulier, bon, on est arrivé à Beyrouth en pleine nuit. Beyrouth, c'est une grande ville, j'allais dire occidentale, hein, finalement, même si c'est le Proche-Orient, on arrive, ou le Moyen-Orient, mais on arrive dans une espèce de bouillonnement, et on part dans un village, voilà, dans la montagne, là où avait lieu notre résidence, à Saïdoun. Bon, c'est la montagne du Liban, hein, finalement, on est à 800, 900 mètres d'altitude, mais on est en haut des montagnes, à 800 ou 900 mètres, on n'est pas au cœur de nos vallées comme ici. Et on est hébergé chez des habitants qui nous louent les maisons. Donc on va être à la fois sur un rythme très très soutenu de travail, de résidence, de travail artistique, avec des metteurs en scène, des chorégraphes, etc. Donc tous les jours, 7 ou 8 heures par jour. Et puis en même temps, comme on est dans le village, au cœur d'un tout petit village de 400-500 habitants, au fur et à mesure se nouent des rencontres humaines, avec les enfants qui s'approchent, les adultes parfois un peu plus lentement. Et puis voilà, la découverte quotidienne et joyeuse.
Alors un élément tout bête, vous communiquiez comment, l'anglais peut-être ou l'arabe ?
Oui, alors ça c'est très étonnant. Bon, déjà, il y a une blague que j'aime raconter, qui est une blague libanaise. Les Libanais disent, alors comment on appelle quelqu'un qui parle 3 langues ? Alors, un trilingue. Comment on appelle quelqu'un qui parle 2 langues ? Ben, un bilingue. Alors, comment on appelle quelqu'un qui parle 1 langue ? Ben, un français. Voilà, parce que les Français souvent arrivent au Liban et parlent que le français. Comme le Liban a une longue histoire avec la France, beaucoup de Libanais parlent français. C'est quand même très très courant. Par contre, là où ça se complique, c'est que bon, il y a une partie qui parle pas français, qui parle anglais. Par contre, dans notre résidence, il y avait des Italiens, des Portugais, des Libanais, des Palestiniens. Et alors là, ça se compliquait vraiment puisque certains parlaient anglais, d'autres italiens, des Français parlaient italien, des Italiens parlaient uniquement l'anglais, des Portugais parlaient uniquement le français et l'italien, etc. Donc on se retrouvait avec un mélange de langues. Il fallait chaque fois sans cesse se demander, mais alors cette personne-là vient de tel pays, elle parle telle langue, les Palestiniens souvent ne parlaient qu'anglais, donc il fallait sans cesse jongler d'une langue à l'autre, et ça donnait des grands grands moments de solitude aussi, où on commence une phrase et on se dit non, je ne vais pas y arriver, je n'arriverai pas à développer mon idée. Donc très rapidement, on essaye de synthétiser sa parole, de synthétiser sa pensée, de prendre la parole uniquement pour des choses qui nous semblent importantes, parce que quand on se lance à parler à un groupe de 4-5 personnes, que dans ces 4-5 personnes, il y en a une qui parle qu'en italien, l'autre qui parle qu'en arabe, etc., etc., ça devient vite compliqué.
Utilisiez-vous le langage corporel quand vraiment vous étiez au bout d'une traduction impossible et que finalement c'est un peu le langage universel, va-t-on dire?
Oui, oui, c'est vrai qu'on était là-dedans et puis surtout on était sur un travail corporel puisque les principaux formateurs utilisent ce qu'on appelle la Alexander technique, la technique Alexander, qui est une technique liée au travail corporel pour les danseurs, les comédiens et les musiciens. Et donc tout au long de la journée, on était sur un travail corporel et donc très souvent, les grands moments d'humour, les grands moments collectifs où il se passait quelque chose, souvent c'était pas avec les mots, c'était plus sur des choses qui se passaient, qui se jouaient dans le corps et dans les expressions du visage. Et puis on se rend compte que, au-delà du travail corporel, ce qui est intéressant pour nous comédiens, c'est le travail sur les émotions. Donc on a fait un travail d'improvisation sur des textes, des choses comme ça. Notamment, on a travaillé sur un texte de Shakespeare, Le Songe d'une nuit d'été, et on devait tous jouer la même scène. Sauf que chacun devait jouer dans sa langue et on se retrouvait à avoir un dialogue. Moi, je jouais avec une jeune comédienne libanaise qui disait le texte en arabe et je lui répondais en français. Mais finalement, le texte se perdait. Et ce qui était important, c'est quelle émotion elle allait donner. Est-ce qu'on est dans la peur, dans la joie, dans toutes ces questions-là de rapport à une expression théâtrale qui finalement là est en quelque sorte universelle, même si le mot est toujours très compliqué à utiliser. Le terme d'universel est toujours pas simple à utiliser.
Donc tu étais là-bas en résidence. Comment se déroulait une journée type? Je crois savoir en la lecture du blog que tu as publié sur le net que c'était assez soutenu, mais toutefois c'était beaucoup de rencontres humaines aussi. Donc du coup le travail était aussi plaisir et ce qui ressort beaucoup dans ton texte, c'est la poésie.
Oui, ce qui est finalement vite bouleversant au bout de quelques jours, c'est que on travaillait un enchaînement de différents ateliers, justement le matin sur la technique Alexander, ensuite avec un metteur en scène portugais sur la mise en espace, une comédienne italienne sur un rapport plus théâtral, etc., etc. Ça s'enchaînait de manière assez soutenue avec des petites pauses rapides. Et du coup, la fatigue aidant, on se retrouve très rapidement dans une espèce de sensibilité forte, à la fois dans le travail artistique, donc ça nous permet d'aller plus loin, d'avancer sur des choses, et puis aussi dans la rencontre humaine avec les gens du voyage du geste, c'est-à-dire avec les autres artistes, mais aussi avec les gens du village. Parce que les gens du village, très rapidement, se sont dit, il y a ces gens de tous les pays qui sont là, qu'est-ce qu'on va faire pour eux? Et donc, des fêtes sont organisées dès le troisième ou quatrième jour. Ils nous disent, comme vous êtes là, on fait une fête. Alors, on s'est dit, ils font une fête pour nous ce soir-là. Et en fait, tous les soirs, les gens du village, à partir de 9-10 heures du soir, quand nous, on avait terminé de manger, ils organisaient une fête dans la cour de l'école et ils amenaient à manger, ils mettaient la musique forte, etc., etc., etc. Et donc, c'est là les discussions, les conversations qui s'engagent et qui sont à la fois dans une espèce de joie mutuelle et presque enfantine de se trouver là, c'est-à-dire nous, Français ou Italiens, de pouvoir discuter de cette situation du Liban et puis de cette chose étonnante de rencontrer un village, et puis eux, en tant que Libanais, de pouvoir accueillir, de montrer leur spécialité, leur richesse, l'importance de leur culture, tout ça prenant à la fois un côté très simple et à la fois toujours une espèce de... Comment dire, un fond sur l'importance des choses et ce qui se passe aujourd'hui, au Liban bien sûr, mais aussi en Palestine et en Syrie, qui sont vraiment les deux pays limitrophes et qui ont une histoire entremêlée. La Palestine est un pays pour les Libanais et pour les Syriens, toute l'histoire de cette guerre du Liban, de l'occupation de la Palestine, etc., montre, comment dire, une espèce d'importance de la vie. Et des choses simples, paradoxalement, ce qui pourrait être dramatique, est aussi un moyen de se dire la vie est importante, et donc profitons de chaque instant, de chaque seconde. Et donc ça donne des choses très étonnantes que je raconte effectivement dans ce bloc-notes, comme ce technicien syrien, avec qui on avait beaucoup de mal à communiquer, puisqu'il parlait qu'en arabe, avec un accent syrien, et avec qui on rigolait beaucoup, puisqu'il avait un téléphone portable, il nous montrait des vidéos très drôles qu'on en trouve sur Internet, comme tout le monde fait ici. Et puis, il nous montre une vidéo, on rigole tous ensemble, il est 2 heures du matin, on vient de refaire le monde. Et puis, avec son téléphone, il passe à l'image d'ensuite. Et puis, c'est les photos qu'il a prises avec son téléphone. Et sur son téléphone, il avait pris en photo sa maison en Syrie, qui avait été bombardée. Et là, tout d'un coup, il nous raconte à 2 heures du matin qu'il a perdu sa famille, qu'il est venu se réfugier au Liban, comme aujourd'hui presque 1 million de Syriens sont au Liban. Et c'est vrai que cette chose entremêlée, de mélange entre eux, les artistes palestiniens, les artistes libanais, nous a construit aussi une existence à la fois tournée vers des choses simples, le rire, la danse, la fête, être ensemble, etc. Et puis toujours cette espèce d'aller-retour entre qu'est-ce qu'on va faire du monde qu'on nous a laissé, de cette espèce de guerre permanente dans laquelle ils sont, et il faut bien rester en vie ensemble.
Cet héritage, crois-tu que les actes à connotation culturelle font barrage finalement aux conflits, aux guerres? Est-ce que c'est justement cette approche-là que inconsciemment tu détaillais?
Oui, c'est vrai qu'il se joue ça. Il se joue ça à deux niveaux. Il se joue ça à la fois sur ce que j'étais en train de dire, c'est-à-dire on a quelque chose en commun, on est des êtres humains. Et donc, quand on rencontre l'autre, que c'est plus un étranger pour nous, on n'imagine pas le bombarder. On était dans une zone chrétienne au Liban. Le Liban est en grande partie chrétien. Et on est venu avec des artistes palestiniens. Les Palestiniens sont eux plus souvent musulmans, pas forcément pratiquants, mais en tout cas musulmans. La rencontre entre les Libanais chrétiens et les Palestiniens, c'était très touchant de les voir se rencontrer, puisqu'ils ont la même culture, ils dansent les mêmes, ils ont la même langue, ils ont la même histoire, etc. Mais ils ont des religions différentes. Sauf que, en vivant ensemble pendant 15 jours, au bout d'un moment, on devient des amis, hein. La vie nous rapproche. Et évidemment que la guerre recule quand on se connaît. Connaître l'autre, c'est déjà le début de la culture de la paix, en tout cas. Il y a dans l'acte artistique cette question-là. Et puis dans l'acte artistique, il se joue autre chose qui est très importante pour moi et pour le travail que je mène dans la compagnie Le Pas de l'Oiseau dans les Hautes-Alpes. C'est la question du savoir aussi. C'est-à-dire que je pense que ce qui fait reculer la guerre, c'est aussi l'intelligence. Et très souvent, on entend les Français dire « Oh, mais tout ça, c'est très compliqué. » Tout ça, la guerre, la Syrie, le Liban, l'Iran, etc., c'est compliqué. Les chiites, les sunnites... Effectivement, c'est compliqué. Bien sûr que c'est compliqué. Bien sûr. Mais si on devait raconter la relation entre Marseille et Paris, je pense que ça serait largement autant compliqué, la relation entre les Anglais et les Français. Évidemment que c'est compliqué, tout ça est une longue histoire. Mais on habite la même planète et donc il va bien falloir qu'on vive ensemble. Et donc pour vivre ensemble, il faut comprendre l'autre. Comprendre que les musulmans sont tous différents, chacun à leur manière. On ne peut pas dire les chiites sont comme ça, les sunnites sont comme ça. Dire le Hezbollah a telle attitude et on doit agir de telle manière. Avant d'avoir un point de vue, évidemment le point de vue de base c'est la paix, mais d'abord il faut comprendre la situation dans sa complexité. Et c'est vrai que c'est pas facile, mais le théâtre, l'art, la rencontre, le dialogue permet aussi de transmettre un savoir, une histoire de nos pays. Et quand on connaît l'histoire de nos pays différents, peut-être qu'on se fera un peu moins la guerre, voilà, ça c'est sûr.
On peut en parler des heures et des heures. On est malheureusement pressé par le temps. On va se téléporter. Donc, il y a eu pas mal d'anecdotes, pas mal de rencontres humaines. On peut le lire sur ce bloc-notes que tu as publié. Quel a été ton sentiment lorsque tu es revenu, comme on dit, au pays, ici même en France, et plus particulièrement dans les Hautes-Alpes?
Oui, c'est vrai que c'est pas simple d'atterrir, hein. Et bon, j'ai la chance d'avoir une famille, des enfants, etc. Et tout d'un coup, voilà, la vie continue. Moi, ce que j'ai mis aussi sur ce texte-là, c'est ce qu'on découvre aussi, c'est qu'il se joue quelque chose sur la ruralité, qui pour moi est important. C'est que au Liban, il y a des gens qui quittent Beyrouth pour retrouver les montagnes. Et il se joue la même chose en Grèce d'ailleurs, puisque l'avancée de la crise économique fait que les gens retournent dans leur village. Et dans les villages, c'est pareil que dans les Hautes-Alpes. Les gens ont des potagers, les gens retrouvent ce rythme des saisons. Et il se joue dans cette espèce de ruralité, à la fois dans les Hautes-Alpes, au Liban et dans d'autres pays, quelque chose qui dépasse les frontières. Et moi, le fait de revenir en France, j'ai vu plus de points communs que de différences. Et c'est ça qui était étonnant, c'est que quand je suis arrivé au Liban, tout me semblait très différent. Et quand je suis arrivé en France, finalement, je me suis dit « Ah, mais en fait, les choses se ressemblent. Qu'est-ce qui se ressemble dans notre histoire et qu'est-ce qui fait que j'ai des amis aujourd'hui au Liban avec qui je communique régulièrement. J'ai des amis en Sicile, des amis au Portugal. » Et on est plus travaillé par nos points communs que par nos différences. Et très souvent, je dis, je me sens plus différent parfois d'un ami parisien. qui a tel et tel mode de vie, rythme de vie, etc., qui me paraît tellement étranger. Et parfois, j'ai des amis au Liban qui me paraissent comme des voisins plus proches. Et ça, c'est vraiment. Je suis content d'avoir vécu ce voyage-là pour ça. Et aujourd'hui, je comprends ce que le terme jumelage veut dire, puisque je pense qu'il y a vraiment un enjeu politique à construire des jumelages entre les villes d'ici et les villes de là-bas, si on veut que tout vivre ensemble, tout simplement.
Tout simplement, as-tu gardé des contacts, oui, tu l'as dit, avec certains, non pas libanais, mais humains, finalement, avec lesquels tu t'es lié au cours de cette résidence? Et viendront-ils, si ce n'est déjà fait en France, bosser sur notre projet, et pourquoi pas avec toi?
Oui, ça c'est un peu le rêve. On a deux, trois idées dans les cartons. On y réfléchit. On peut rien annoncer de sûr. La difficulté, c'est de trouver des financements. La difficulté aussi, c'est que le Liban est le Liban. C'est un tout petit pays qui est complètement enfermé dans ce qui se passe aujourd'hui au milieu de la Syrie, de la situation de l'Iran, de la Palestine, etc. Donc c'est très difficile de voyager. Pour nous, c'est facile de voyager, mais pour eux, c'est bien plus compliqué. Et puis, donc nous, on aimerait construire justement des jumelages artistiques qui reviennent. Ce qui est sûr, c'est que la compagnie, il y a deux choses importantes. Une compagnie palestinienne avec qui on a travaillé vient jouer à la passerelle, hasard complet de la vie. Donc vient jouer à la passerelle à Gap, Bye Bye Gillo, début décembre, qu'il faut aller voir. Voilà, j'ai un ami à moi avec qui j'étais en résidence. Atta, il sera dans les Hautes-Alpes en décembre et donc je vais pouvoir boire un coup avec lui. Et je lui ferai boire du Genepi parce qu'il m'a fait goûter du harak. Et par contre aussi la compagnie libanaise avec qui on travaille, qui travaille sur les marionnettes, vient très souvent en France. Il travaille avec une compagnie dans le Vaucluse. Et donc on pourra retrouver Karim Dakroub, je pense, très rapidement en France puisque c'est vraiment un artiste de renommée internationale et qui vient très souvent travailler chez nous. Et heureusement en France, on a une vie culturelle riche qui permet ces jumelages-là.
Merci Laurent d'avoir partagé avec nous, eh bien, ce voyage humain à travers les ondes aussi. Maintenant, ça va se transmettre. Peut-être un lien signalé pour que les auditeurs puissent lire ton petit bloc-notes qui est plutôt enrichissant.
Oui, ben, je pense que le plus simple, c'est de taper sur Google Laurent Hérochome, parce que donc j'ai un blog qui s'appelle Poélytique. Voilà, donc Poélytique, c'est un petit blog. Et puis surtout, le plus simple, c'est d'aller sur le site du Pas de l'Oiseau, donc la compagnie Le Pas de l'Oiseau. Et le site, c'est lepasdeloiseau.org. Donc c'est le plus rapide.
Et justement, tu tends une passerelle. Tu parlais du théâtre ici même à Gap. Nous allons parler de cette compagnie, Le Pas de l'Oiseau, ainsi que de la coopérative. Quelques mots, quelques réflexions à dire autour de cela aussi. Il y a beaucoup de choses, justement. Vous travaillez sur divers projets.
La compagnie Le Pas de l'Oiseau est une compagnie qui a quelques années. En ce moment, c'est une espèce d'enchaînement et de développement de projets artistiques multiples. Il se trouve que avant, j'étais directeur du Formidable. Aujourd'hui, je me consacre vraiment entièrement au Pas de l'Oiseau avec mon alter ego Amélie Chamou. Et on développe différents projets de création et d'atelier. Pour nous, le Pas de l'Oiseau est une compagnie qui. Enfin, le Pas de l'Oiseau marche sur deux pieds, si j'ose ce petit jeu de mots. À la fois un travail de création artistique et de spectacle autour des arts du récit. On écrit des spectacles et on raconte des histoires qui se passent aujourd'hui. Et le deuxième pied, c'est notre travail d'atelier. Atelier artistique sur la parole à la fois des enfants et des jeunes qu'on mène à la fois dans les lycées professionnels, dans les écoles, dans les MJC, etc., etc., où les enfants font du théâtre, mais pour nous, c'est pas quelque chose de secondaire, c'est au cœur de notre projet de compagnie de théâtre, c'est faire émerger la parole des gens, et la parole des gens, c'est aussi faire en sorte que les gens puissent faire du théâtre. Donc c'est aussi ça le projet du Pas de l'Oiseau. En ce qui concerne les projets artistiques et les créations de spectacles, on a eu une très belle surprise, c'est que la dernière création qu'on tourne, qui s'appelle L'Héritage, est un spectacle qui tourne maintenant depuis 3 ans, qui a été joué près de 75 fois partout en France. J'ai la chance d'aller raconter cette histoire qui se passe dans une vallée imaginaire qui s'appelle le Champ d'Or. Ça, les Hauts-Alpins auront vite compris de quoi il s'agit. Je parle dans ce spectacle de ce qui me touche, de nos vallées, de nos montagnes et de comment on peut vivre ensemble dans nos villages. Et ce spectacle-là, ben, il touche pas seulement les Hauts-Alpins, puisqu'il est programmé un peu partout en France et a fait germer de nombreux partenariats. J'arrive d'une résidence d'écriture en Corse, où j'ai joué le spectacle Héritage, je l'ai joué en Picardie, je l'ai joué à côté de je vais le jouer à côté de Tours en Indre-et-Loire, je vais jouer à Lyon, Grenoble, Toulouse. Enfin voilà, c'est un spectacle qui voyage énormément. Dans ces différentes rencontres, il y a une rencontre depuis des années avec un comité d'entreprise de la SNCF de la région PACA et qui nous a dit, ben, nous on aimerait bien réfléchir avec vous à la question des coopératives et de ce qu'on appelle la démocratie dans l'entreprise. Est-ce qu'on peut monter un spectacle là-dessus? Et nous, évidemment, c'est quelque chose qui nous travaille énormément au pas de l'oiseau, c'est-à-dire comment on pourrait vivre ensemble de manière un peu différente. Et ce thème nous a vraiment branchés. Donc avec Amélie, on est parti, on collecte des paroles, on va dans les entreprises, on cherche des tonnes de trucs sur Internet, il y a plein de CE un peu partout en France qui vont accueillir le spectacle, et on va raconter une histoire de coopérative dans la complexité de comment vivre ensemble et comment travailler ensemble. On est en train d'écrire une histoire là-dessus et le spectacle sera créé en juin à Vennes, centre du monde, et ensuite sera joué dans un petit festival, un festival off d'Avignon, en juillet.
2014
oui, 2014, oui, bien sûr. On a besoin de construire ce projet-là. On est à une étape de travail où on est à la fois sur l'écriture, sur la rencontre, les collectes de paroles dans les entreprises, et on a besoin de réunir autour de nous des associations, des comités d'entreprise, des mutuelles qui seraient prêts à nous aider pour créer ce spectacle. Parce que créer un spectacle un peu gros avec de la musique, un projet, une production de spectacle, ça demande des moyens financiers. Donc on a, on va dire, la colonne vertébrale du spectacle au niveau financier, de la production, puisque le CE des Cheminots PACA nous aide fortement. Mais on recherche et on fait un appel, je profite de cette antenne pour faire ça, un appel à soutien et à souscription pour financer ce projet-là, qui n'est pas un projet de dire les coopératives, c'est la solution. Parce que si on avait la solution miracle, je pense que ça saurait. Par contre, la seule chose qu'on a à dire, nous, en tant qu'artistes, c'est ce chemin-là est intéressant pour réfléchir. C'est intéressant d'en parler entre nous. C'est un sujet dont il faudrait qu'on se parle, c'est-à-dire... On voit bien que les gens dans les entreprises sont souvent en souffrance, se demandent pourquoi ils se lèvent le matin parfois, comprennent pas la question de la hiérarchie dans l'entreprise, de la subordination, etc. et aimeraient être plus impliqués dans les entreprises. Souvent, on se dit il y a des entreprises qui font faillite, des entreprises en difficulté. Nous, ce qu'on se dit, c'est peut-être que si les salariés étaient plus écoutés dans les entreprises, peut-être il y aurait moins de faillite, peut-être on aurait moins de mauvaises surprises sur la manière de gérer l'argent. Et peut-être qu'on utiliserait plus l'argent pour l'être humain. Mais tout ça pose des questions très difficiles, puisque les gens n'ont pas forcément envie de se dire « Ah ben moi, je veux aussi, à 5 heures, je veux être chez moi, je veux pouvoir m'occuper de mes enfants, je veux pas que l'entreprise, elle me bouffe toute ma vie, etc. » Donc être en coopérative, c'est pas simple non plus. Créer une coopérative, c'est pas simple au niveau économique, au niveau humain, etc. Mais nous, on veut raconter un spectacle qui raconte comment ça se fait dans le quotidien. Travailler ensemble, s'écouter, prendre le temps de s'écouter les uns les autres, et comment on fait vivre au niveau économique une entreprise, voilà. Et on pense que c'est un bon sujet de conversation dans le milieu de l'économie sociale et solidaire, tout ce monde-là qui bouge beaucoup en ce moment. Et on pense que ce spectacle peut servir à quelque chose pour ouvrir le débat. Et c'est pour ça qu'on appelle à souscription les gens qui pensent que ça aussi, que c'est utile pour eux aussi. Donc voilà, on profite de l'antenne. Merci beaucoup en tout cas.
Oui, d'autant plus que c'est finalement assez excitant que de travailler avec des non-initiés dans le milieu artistique, dans le milieu du théâtre, des gens qui ne sont finalement pas comédiens, mais avec lesquels vous pouvez construire quelque chose et délivrer un message qui est de l'ordre finalement national, voire même international. Et là, on rejoint aussi le Liban.
Bien sûr, c'est une question... la question des coopératives dépasse complètement les Hautes-Alpes et la région PACA, et une question notamment en Amérique latine, même au Liban, il y a des coopératives, etc. Ce qui est important pour nous, c'est il y a le travail artistique sur le plateau. Qu'est-ce qu'on va jouer, qu'est-ce qu'on va raconter comme histoire au public, qu'est-ce qui va se jouer au niveau de l'émotion qui va être transmise, comment les gens vont prendre du plaisir à écouter cette histoire. Et puis, il y a tout ce qui va autour du spectacle, c'est-à-dire, et encore une fois, c'est vraiment le parti pris du Pas de l'Oiseau, de travailler avec les gens, collecter des paroles. On a rencontré les gens au Fralib, à Gemnos, qui essayent de relancer ils faisaient le thé et les tisanes éléphants, pour ceux qui connaissent, et donc, ils vont reprendre leur entreprise en coopérative et faire, et c'est là où c'est trop très drôle, où les choses, tout est lié, ils décident de faire un produit bio et local, donc ils commencent par faire de la tisane, ils vont bientôt réouvrir leur entreprise, en tout cas on leur souhaite, et ils achètent du tilleul bio à Buis-les-Baronnies. À Buis-les-Baronnies, il n'y avait pas assez de gens pour... Donc ça va relancer une économie dans les petits villages. Ils sont à Gemnos, à côté de Marseille, ils achètent les choses à Buis-les-Baronnies. Tout ça crée un tissu économique. Et pour nous, le théâtre fait partie de la société. Et on n'est pas des martiens ou des démiurges, des génies, des gens qui seraient extérieurs au monde. On est dans le monde. Donc on apporte notre pierre. Et notre pierre, c'est la créativité et l'écoute de la parole des gens, c'est-à-dire prendre du temps avec les ouvriers, parler avec eux, voir, faire des ateliers d'écriture, etc. Pour la petite anecdote, je rebondis sur votre question. Je fais moi un travail avec des jeunes dans un dispositif qui s'appelle ETAPS. C'est des jeunes en difficulté, comme on dit, je ne sais pas trop ce que ça veut dire, à qui on a toujours dit qu'ils étaient nuls. Des jeunes à qui on dit de toute façon vous êtes en échec, vous êtes nul, vous n'y arriverez jamais. Et moi je travaille avec eux sur la parole, l'expression et les ateliers d'écriture. Et ce qui est merveilleux dans les ateliers d'écriture, c'est que tout le monde sait écrire. On va pas les corriger les fautes d'orthographe, c'est pas le jeu, puisqu'on travaille sur l'oralité. Mais du coup on organise ensemble une soirée slam là, qui aura lieu le 29 novembre au Café du Peuple et à Vennes. Et c'est eux qui animent la soirée slam. Et leur parole, elle est importante parce que c'est une parole d'aujourd'hui, c'est une parole de ce qu'ils sont en train de vivre eux. Et le théâtre, et la parole, prendre la parole en public, etc. C'est pas des experts en théâtre, c'est pas des grands comédiens, c'est pas du tout ça le but. Par contre, ce qui est intéressant et ce qui est important, c'est que c'est une parole citoyenne d'aujourd'hui. Et nous, en tant que compagnie de théâtre, on est une espèce de vecteur, on est un peu un porte-voix de toutes ces choses-là. Et on aime à penser que ce théâtre-là, c'est un théâtre qui est peut-être très humble. On n'est pas, voilà, on joue pas, on cherche pas à être une très très grande compagnie. Mais par contre, petit à petit, on essaie de faire avancer des sujets à travers nos spectacles.
Je réagis sur le texte qu'on peut trouver dans la présentation, eh bien, de la coopérative. Coopérer, un antidote à la crise. Très bonne question que je peux te poser tout de suite.
Oui, ça c'est une bonne question. Bon, il y aurait de quoi débattre pendant 2 heures sur qu'est-ce que la crise, ça c'est sûr. Par contre, ce qui est une évidence, qui est un fait qu'on peut pas discuter, c'est qu'on est dans un moment de difficulté économique et on voit bien que les entreprises sont en très grande difficulté. On voit bien que il y a des emplois qu'on peut délocaliser, il y a des emplois qu'on ne peut pas délocaliser. Voilà. Ça c'est une vraie question. Et pour que les emplois ne puissent pas être délocalisés, il faut aussi que les salariés puissent empêcher certaines choses. Et donc c'est vrai que l'idée de la coopérative et des coopératives telles qu'elles sont en train de se créer un peu partout, c'est que on puisse créer des emplois ici, les maîtriser de A à Z et développer une nouvelle économie. Développer une économie parce que, pour l'anecdote, je mangeais au restaurant à Vennes il n'y a pas longtemps, on me sert une salade de chèvre et le fromage de chèvre venait de Nontron. Dans le Périgord vert. Alors, il était très bon ce fromage de chèvre. J'ai rien contre le fromage de chèvre du Périgord vert. C'est très sympa le Périgord vert. Mais il y a des fromages de chèvre dans les Hautes-Alpes. Si les salariés avaient leur mot à dire dans les entreprises, ils comprendraient que les personnes qui travaillent dans les restaurants, même dans la restauration collective par exemple, ils savent qu'ils ont des enfants. Si les grands selfs étaient gérés en coopérative, les endroits où vont manger beaucoup de monde à midi, peut-être qu'il se dirait, j'ai intérêt pour moi à titre personnel et pour mes enfants ou pour mon mari, etc., à ce que se développe une économie locale pour pouvoir créer des emplois ici. Si on demande aux salariés qui sont pour moi, la vraie intelligence des entreprises, elle est dans les salariés. C'est eux qui font et qui produisent les choses. Leur avis, pour moi, devrait être central dans la vie des entreprises. Et aujourd'hui, on voit des entreprises qui décident de s'orienter sur des secteurs en fonction de marges de rentabilité et qui très souvent tuent des compétences, des savoir-faire, des manières de travailler, des choses qui sont depuis des années, qu'on a construit des compétences de salariés et qui sont détruites du jour au lendemain pour augmenter des marges de profit. Donc le parti pris des coopératives, c'est de dire si les salariés reprennent leurs entreprises, parce qu'en quelque sorte elle est à eux, l'entreprise, ben peut-être que les choses changeraient dans la vie économique. Mais dans le sens d'une vie économique, y compris rentable, pour dire les choses avec des gros mots, on pourrait vivre au pays, gagner de l'argent, gagner sa vie, et puis essayer d'être bien ensemble et s'écouter les uns les autres, ce qui n'est pas mal aussi un petit peu plus de bien vivre dans les entreprises. Je pense que ça serait bénéfique pour tout le monde.
Et éviter justement ce que la ruralité perde et puis se dépeuple. Tu citais Bulle et Baronnie, puis finalement ça c'est un très bel exemple de développement et de maintenance.
Oui, bien sûr, c'est ça l'enjeu. On voit, moi je suis originaire des Hautes-Alpes, je suis, toute ma famille est dans le Champsaur, j'habite dans le Buëch, et je peux vous assurer qu'il faut sauver nos pays pour différentes raisons, mais il faut sauver nos pays, y compris des difficultés économiques. Donc il faut trouver un développement économique qui soit partagé par tout le monde et qui soit vivable par tout le monde, et pas seulement, c'est pas parce qu'on va nous construire des grandes usines que ça va sauver, résoudre nos problèmes. Donc voilà, se battre contre les difficultés de notre monde rural, c'est aussi se poser la question de comment vivre ensemble, comment on construit les projets ensemble. Ça rejoint les questions politiques de la citoyenneté, c'est-à-dire, moi je dis souvent, on a les élus qu'on mérite, et on a aussi les entreprises qu'on mérite. Donc voilà, ça c'est un avis peut-être plus militant de ma part, mais en tout cas, la parole des citoyens, nous on essaye de la rendre vivante par le théâtre et par l'expression de la poésie, parce que être dans la poésie, c'est être humain, mais aussi la parole citoyenne, il faut qu'elle puisse exister à tous les échelons de notre vie, donc dans les mairies, dans les entreprises, mais aussi dans les théâtres, dans les lieux culturels, pour qu'elle s'exprime.
Et petit à petit, l'oiseau fait des pas et va faire son nid, donc n'oubliez pas, il y a un site internet dédié au pas de l'oiseau, où les auditeurs peuvent s'orienter pour se tenir au courant de vos activités et des pierres que vous apportez à cet édifice qui ira, espérons-le, dans le mieux. C'est beaucoup de bonne volonté tout ça, et je pense qu'il y a, ça c'est à titre personnel aussi, beaucoup de gens, d'auditeurs de Fréquence Mistral et bien d'autres encore, qui vont vous rejoindre dans cette mouvance.
Merci beaucoup. À bientôt, j'espère, en tout cas.
À bientôt, Laurent.